1538. Avec une belle vue sur la mer depuis le salon d'Isabelle. Donc Isabelle, habitante de Sète des quartiers hauts, qui est un quartier très, très vieux de Sète, avec une histoire très particulière. Tu y habites depuis combien de temps ?
Plus de 30 ans maintenant. C'est l'ancien quartier des pêcheurs. Il y a encore beaucoup de pêcheurs d'ailleurs, mais au fur et à mesure... C'est remplacé par des gens qui arrivent de l'extérieur. Mais nous, quand on est arrivés, c'était essentiellement le quartier italien, avec les vieilles femmes, avec leurs fichus noirs, qui parlaient avec les chaises sur le trottoir. C'était très, très, très authentique. Voilà, on est très bien parce qu'évidemment, il y a la vue sur la mer. Il y a des jardins partout derrière. Très agréable. Et on est à pied. On va au centre-ville à pied, quoi. Donc, on peut tout faire à pied d'ici.
Un quartier aussi où sont nées des solidarités durant la période du confinement, des initiatives de femmes apparemment, parce que je suis entourée de femmes là aujourd'hui.
Ah.
Il faut constater que ce soit pendant le confinement ou dans les diverses activités en temps normal, la question récurrente c'est mais où sont les hommes ? Dans les associations, il y a quand même, bon la COP peut-être moins, mais enfin dans l'ensemble, la majorité des associations, il y a une majorité de femmes.
D'où est partie l'initiative dont on va parler aujourd'hui ?
Uniquement du fait que j'ai vu un petit entrefilet dans Midi Libre, parce que comme beaucoup de personnes autour de moi, on avait envie de faire quelque chose sans se mettre en danger, puisqu'on fait partie des personnes à risque. Et j'ai vu ce petit article d'Éric Rago, qui est président des Bons Samaritains, qui demandait entre autres des personnes faisant la cuisine à domicile. Et là, je me suis dit que c'était parfait pour nous de pouvoir se rendre utile et en même temps de ne pas être dans le risque. Donc j'en ai parlé au début à 3 personnes autour de moi qui ont tout de suite dit oui. Donc on a commencé un premier repas, on était 3. Et puis j'en ai reparlé autour, de plus en plus large. D'abord les voisins, ensuite les amis et ensuite un peu plus large. Et maintenant, nous sommes une quinzaine à faire des repas, chacun son tour, pour que ce ne soit pas trop lourd. Et on fait 15 repas le jeudi et 15 repas le dimanche. Et il y a 3 personnes qui font les plats chauds et 2 personnes qui font les gâteaux, qui achètent les fruits. Donc on prépare des plats complets, avec le plus de qualité d'alimentation possible, bien sûr. Et donc, ces repas sont ensuite distribués par les Bons Samaritains qui font des maraudes tout l'après-midi jusque parfois tard le soir, parfois 23h le soir, parce qu'ils font non seulement les maraudes sur Sète, mais également sur Frontignan. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et au départ, quand ils ont commencé, au début du confinement, il y avait 35 personnes qui étaient dans la rue. Et maintenant, il y en a 80. Donc, puis il commence à y avoir des familles. Donc, ça devient vraiment très, très difficile.
Qu'est-ce que tu as préparé comme repas ?
Alors, j'ai préparé un curry de lentilles. Donc, lentilles, carottes, oignons et merguez. Bien relevé avec un curry. Ça, c'est le plat chaud. Donc, on livre chaud pour que... Bon, là, il commence à faire un peu chaud, donc c'est moins urgent. Mais quand on a commencé, il faisait pas si chaud que ça. Et c'est important que les gens qui sont dans la rue puissent manger chaud. Donc voilà, ça, c'est mon petit plat. Ensuite, il y a Marie-Claude qui a préparé je ne sais quoi.
On va aller demander à Marie-Claude. Donc tu as adhéré au projet. À quel moment ?
On est immédiatement dans les premières parce que j'habite juste à côté. Voilà. C'est de l'autre côté de ce mur, et donc on est amis quand même depuis très longtemps, et que je suis dans ce délicieux quartier depuis un peu plus de 20 ans maintenant quand même. Mais ce n'était pas en temps continu jusqu'à présent, mais là, c'est vraiment la première fois qu'on reste aussi longtemps. Donc voilà, j'ai répondu parce que c'était Isabelle. Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre... qui me demandent ça, je ne pense pas que je m'y serais mise. Mais là, Isabelle, elle fait tellement de belles choses, aussi bien en art, parce que nous, on est amoureux de ces sculptures, et que d'un point de vue social. Non, mais c'est toujours, tu es à l'origine de toutes ces initiatives. Donc voilà, c'est grâce à Isabelle que je suis entrée là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai fait des spirales. Tortellini au maïs et tortellini lentilles, dans une énorme sauce où il y a de la viande, des merguez, des tomates, des oignons, et je pense que j'en oublie, et du poulet, et voilà. Donc ça fait de très belles portions, hein. Les barquettes qu'on nous apporte, qui sont toutes neuves, ça fait des très belles portions parce que c'est le seul repas, hein, je crois, qu'ils prennent de la journée. Donc voilà. Et c'est tout. Et plus on est nombreux, moins c'est lourd à porter, parce que au début, les premières fois, comme on n'était que deux pour le plat principal, il fallait 2 × 8, 16. Et pour 8, ça fait quand même, pour 8 personnes, ça fait beaucoup. Et puis maintenant, comme on est 3 pour faire ça, donc c'est pour 5, donc c'est tout à fait... Ça peut entrer presque dans une routine, quoi. Enfin, quelque chose qu'on peut faire sans mettre en action d'énormes énergies. Voilà. Et puis, bon, ben voilà, c'est
oui,
tout.
Tout en restant chez soi aussi.
Oui, tout en restant chez soi, parce que moi, je n'irais pas faire la maraude comme... voilà. Moi, ça me convient très, très bien comme... j'admire beaucoup ceux qui le font, mais moi, je ne me sentirais pas de le faire. Voilà.
Et c'est la première fois que vous participez à une action, comme celle-ci
là. Oui, tout à fait. Tout à fait, non.
Ou une action de solidarité?
Non, de solidarité, j'ai fait d'autres choses, mais pendant très très longtemps, j'étais plus dans l'action, comment on pourrait appeler, politique, entre guillemets, ou syndicale, je veux dire, plus militante, plus pas dans ce type d'action qui, pour moi, au départ, était presque contre mes convictions. Pour moi, mes convictions, c'est la justice sociale. Et donc, c'est pas faire la charité ou faire une bonne action. Mais je me rends compte qu'on peut très bien se rejoindre, justement, dans beaucoup de circonstances. Voilà. Donc, à l'origine, c'est pas du tout mon mode d'action, on va dire.
Là où il y a des besoins et de l'urgence, en fait, c'est ça.
Voilà, c'est l'urgence, en fait, qui nous tient.
Oui, je crois que tu veux nous dire quelque chose.
J'habite le quartier aussi, puisque j'ai été mobilisée aussi par le bouche à oreille sur cette action. Moi, par contre, moi aussi, j'ai eu des activités politiques, syndicales, associatives, et je suis pour la justice sociale, contre l'injustice, et voilà. Mais toujours est-il que là, il y avait urgence. Il y avait des gens qui n'avaient pas à manger dans la rue, et que ça aurait été les bons. Alors, ça a été les bons Samaritains, ça aurait été la mosquée, ça aurait été n'importe qui me demandait de faire à manger. Je l'aurais fait. Et d'autant qu'en plus, j'ai été gâtée parce que finalement, il y a eu tout un système de solidarité dans le quartier qui m'a permis, moi, qui faisais partie aussi des publics fragiles, à la fois de bénéficier, il y a des voisines qui m'ont donné des masques, il y a d'autres voisines qui m'ont amené des paniers solidaires, par exemple, puisque ce système était mis en place. Et donc, j'ai trouvé tout naturel, vraiment, et j'étais très contente de pouvoir... un petit peu donné de quelque chose de mon temps, voilà, dans cette période-là. Par contre, maintenant qu'effectivement, on souffle un peu, que les associations vont reprendre un petit peu le dessus et puis se réinvestir, je trouve que là, il faut de nouveau mettre à plat les choses, se dire, mais pourquoi il y a autant de gens dans la rue alors qu'on habite une ville où il y a énormément d'opérations immobilières qui sont où les gens se font du beurre avec le Airbnb. Enfin, il y a énormément d'injustices qui sont liées à l'inégalité en fait, sociale qu'il y a dans cette ville. Et c'est vrai que le fait de découvrir que les institutions ne sont pas capables de s'occuper en urgence de gens qui sont dans la rue, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. à l'heure actuelle. Et je suis à la fois fière qu'on ait mis en place ce petit réseau et j'ai envie qu'il continue à exister, mais autour d'un autre type de réflexion.
Oui, c'est ce que tu disais la dernière fois. Là, il serait temps de faire un peu un bilan, d'avoir une visibilité sur concrètement ce qu'a apporté votre action, par exemple.
À la fois, voilà, qui a été en difficulté, pourquoi les institutions n'ont pas réussi à y répondre, qu'a fait la mairie, par exemple, parce qu'on a des rumeurs, c'est pas que des rumeurs, je les ai vérifiées aussi, comme quoi la police municipale ne s'est pas gênée pour donner des amendes, par exemple, au SDF, qui a eu une seule douche qui a été ouverte, en fait, pendant cette période-là, pour l'entretien de ces personnes-là. Enfin bon, ils ont des problèmes de stockage de leurs propres affaires, de lavage, enfin. Et puis, il y en a beaucoup qui ne demandent que d'avoir un toit, en fait. Hein. Même s'ils restent toute la journée dans la rue, la nuit, ils ont besoin d'un toit comme tout le monde, avec de l'eau, de l'électricité, enfin, et pas qu'un squat. Et donc ça, je pense que vraiment, on est dans une ville suffisamment riche pour qu'il y ait un partage qui puisse se mettre en place et qui permette de résoudre ces problèmes-là, sans compter tous ceux qui s'entassent dans des immeubles parce que effectivement les jeunes familles sont encore hébergées par les parents. Enfin, on sait qu'il y a un problème de logement dans cette ville qui est vraiment très 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 fort, mais que effectivement il y a un temps pour tout quoi. Il y a un temps pour l'urgence et là il faut être là.
Alors Véronique, toi aussi tu t'es greffée à cette initiative.
Ce qu'on appelle le quartier arabe de Sète, la rue Honoré-Eusée. Mais je connais Anne, je connais Isabelle, voilà, je connais un peu comme je navigue dans pas mal d'associations. Mais c'est vrai que, bon, moi j'ai été infirmière, donc effectivement quand il y a un blessé qui est en danger mortel, on commence par le soigner, on pose des questions après, on ne lui demande pas sa carte vitale. Mais, et là c'est un peu à ça, et finalement moi après le confinement, bon, la solidarité pour moi ça a un sens, donc j'étais très satisfaite, même si c'était peu ou prou d'y participer, parce que c'est important pour moi, c'est dans mes valeurs. Mais à la fin du confinement, je crois que j'étais très en colère parce que cette période, pour moi, elle a pas révélé, parce que ça, tout le monde le sait, mais elle a mis dans une lumière crue, justement, les situations de fragilité dans laquelle sont... Alors, il y a les migrants, il y a les SDF, certes, mais il y a aussi des familles qui étaient déjà extrêmement fragiles au départ et qui se sont retrouvées par terre, c'est-à-dire avec plus de quoi manger, plus de quoi payer le loyer, et que je trouve que c'est à un moment donné, moi, dans la solidarité, sortie de la période d'urgence, je pense qu'il faut effectivement réfléchir, mettre les choses à plat et voir quel type d'action on peut avoir, parce que si on continue, on cautionne. Et ça, pour moi, ça ne serait pas possible de continuer à cautionner quelque chose qui est produit en amont, parce que c'est produit. Cette fragilité-là, elle ne vient pas de nulle part. Elle est faite que tous les gens les plus fragiles, ils n'ont pas accès à des logements, ils n'ont pas accès à des produits de qualité correcte, ils n'ont pas accès à une certaine éducation, et que ça, ce n'est pas possible, quoi. Et les associations ou les individus ne peuvent pas tout le temps... Disons que, et pour moi, c'est même dangereux de pallier en permanence à ça. Voilà. Je trouve que c'est vraiment... moi, je ne suis pas du tout... Je n'ai jamais été très engagée politiquement, mais j'ai toujours eu cette... Oui, parce que c'est... En plus, moi, j'ai toujours considéré que sur le plan personnel, dans ma propre histoire, j'étais privilégiée, et que donc, ça n'était que juste que je puisse... et que pour moi, de toute façon, avoir ce type d'action... j'ai toujours eu tout à fait conscience que ça me donne une image de moi très positive, très agréable. Ce qui fait que quand je fais quelque chose, pour moi, l'autre ne me doit rien, puisque moi, je suis largement dédommagée parce que ça m'apporte intérieurement et dans ma vie. Et je trouve que c'est... maintenant, moi, je ne suis pas très organisée. Je ne sais pas comment on peut agir pour essayer d'avoir une efficacité, pour remettre ça en avant. Pour que les choses, elles s'améliorent un peu sur ce plan-là, quoi. Et c'est marrant parce que je me rends compte que ça me touche plus que je croyais, en fait, encore plus, ouais.
Pour revenir sur l'absence de l'État, des institutions en règle générale, hein, face aux détresses sociales, je crois que toi aussi, tu es engagée dans l'accueil de migrants et tout ça, c'est en train, en fait, finalement, se rejoindre, se recoupe et c'est beaucoup... retrouver aussi pendant le confinement dans les situations d'urgence. Alors, est-ce que tu as un exemple à nous donner d'un jeune, il me semble ?
Oui, d'un jeune migrant que je ne sais plus s'il est resté 8 ou 15 jours chez moi et qui, en fait, est quelqu'un qui, visiblement, veut rester, veut s'intégrer,
qui a profité de son temps de prison quand il est arrivé pendant 4 mois pour apprendre le français, qui a la capacité de créer des liens et de donner envie aux autres de l'accompagner. Et c'est quelqu'un qui s'est très très bien intégré justement dans dans l'association des bons samaritains, qui fait la cuisine, et je pense que c'est vraiment des exemples à mettre en avant pour montrer tout ce qu'on peut faire. Parce que héberger quelqu'un 8 jours, 15 jours, c'est mieux que rien, au moins il n'est pas dans la rue. Puis après, il y a des relais, mais ce n'est pas suffisant, quoi. C'est, encore une fois, on pallie encore là et en dehors du confinement à des situations qui ne font que se répéter. Donc on fait ce qu'on peut parce que c'est toujours mieux de le savoir. Moi, je préfère le savoir chez moi que dormir sur le trottoir. Mais à un moment donné, il s'en va. Donc s'il y a un relais, ça va, mais des fois, c'est le casse-tête. Parce que les migrants, ils arrivent, ils sont de plus en plus nombreux. Et le nombre de gens qui ont la capacité, chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a, de les héberger, de les accueillir, de voir plus. Et voilà. Il y a une migrante que j'ai hébergée aussi, d'origine algérienne, et qui depuis l'été dernier est restée dans le studio d'une des personnes du groupe qui héberge. Donc ça, il y a des solutions comme ça, mais ce n'est pas toujours pérenne, quoi. Donc, il y a une fragilité qui est entretenue pour moi.
Et là, ces repas sont distribués, donc...
Ce sont soit des personnes isolées, soit des personnes qui sont en squat. Et le 115 signalant aussi des personnes qui ne sont pas forcément connues, mais qui sont repérées ainsi. Voilà. Il y a une coordination des maraudes qui est faite par un service départemental aussi, qui a permis de faire un planning et de s'assurer au moins qu'effectivement, qu'il y avait au moins 2 repas par jour pendant l'ensemble du confinement.
Normalement, à partir de la semaine prochaine, nous ne ferons plus que le jeudi, puisqu'il y aura moins de maraudes. Déjà, ils sont passés de 4 maraudes à 3 maraudes, parce que dans la journée, il y a... le Secours Populaire qui donne des colis, il y a les Restos du Cœur qui ont ouvert, donc ils ont un petit peu plus la possibilité de se nourrir, alors que pendant le confinement, comme il n'y avait personne dehors, ils ne pouvaient pas manger. Et donc pendant le confinement, ils se sont débrouillés, là, les 3 maraudes, à ce qu'il y ait des repas midi et soir. Là maintenant, ils sont passés à uniquement repas du soir. Et puis, tout doucement, évidemment, en espérant que les associations dont c'est le travail vont prendre le relais. Et normalement, les maraudes vont s'arrêter fin juin. Donc, après, ça sera comme avant, quoi. Mais il va falloir trouver d'autres solutions. Voilà, le Secours Populaire. Donc, il y a des relais qui se font, alors que pendant le confinement, tout ça, c'était fermé.
Donc, oui, là, les actions qui étaient là avant... reprennent leur activité, quoi, en gros. Oui. Sauf que là, oui, la crainte, on le verra plus tard, je pense, dans le reportage avec Eric, c'est qu'il y a des besoins qui n'étaient pas là avant et qui sont nés suite au confinement, suite à la perte de travail et d'activités qui ne sont pas déclarées.
Et Anne, on est allé voir Eric hier, on est resté 2 heures avec lui et nous parler de ces familles qui arrivent maintenant et qui se retrouvent sans rien. Parce qu'au Secours Populaire, il faut s'inscrire. Au Resto du Cœur aussi. Là, ils arrivent en urgence, on n'a rien à manger, mais ce n'est pas la vocation normalement des bons samaritains de faire des colis. Ça, c'est la vocation d'autres associations. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de solution miracle non plus. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens dans la rue? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de misère? On est bien d'accord. Donc nous, je pense qu'on va essayer de tenir jusque fin juin, mais comme c'était dit, on ne va pas cautionner un système où l'État est complètement démissionnaire. Alors, on a appris hier que les SDF, ils ont une douche qui a été ouverte pendant le confinement.
Voilà, en face
du... Et ça, c'est inadmissible. Il n'y a pas, il y a eu aucun système pour que les gens puissent laver leurs habits. Il n'y a rien qui s'est mis en place, rien du tout. Et ça, c'est sûr qu'il va falloir aborder ça, quoi.
Parce qu'en règle générale, il y a un accueil de jour ici à 7.
Il y a le SUS, le service d'urgence C'est toi, qui a brûlé.
C'est ça qu'ils ont mis à l'auberge de jeunesse. Mais l'auberge de jeunesse va sûrement réouvrir. C'est pour les vacances, donc ils vont être mis dehors. Là, l'auberge de jeunesse était provisoire. Mais c'est vrai qu'il y a un... la crise a accentué les choses, mais on est dans un pays immensément riche, on est dans un monde surtout immensément riche, et c'est pas normal qu'à notre époque il y ait des gens qui aient pas de quoi manger. Voilà, c'est à un moment donné, il faut arrêter avec ces inégalités.
Voilà, c'est tout. C'est... Alors après, il y a plein d'associations à 7. Tout le monde a donné à 7 plein de son temps dans plein d'associations. En plus, on avait plus de temps. Mais c'est le problème perdurait était déjà avant et continuera après, encore plus fort, puisque beaucoup de gens ont perdu leur travail, n'ont plus de travail, parce que tout le monde n'est pas déclaré ceci, cela dans les cadres. Donc il y a des gens qui n'ont plus rien et qui n'auront plus rien pendant longtemps. Même des étudiants qui ne vont pas pouvoir avoir un travail saisonnier. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans la misère aussi, des gens qui n'étaient pas des gens attitrés miséreux, entre guillemets. Et effectivement, il y a des familles qui ont perdu leur travail parce que la maman faisait des ménages, faisait des choses comme ça et qu'elle n'avait plus de travail.
Et vous êtes du quartier, vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation ?
Moi, je suis dans ce quartier, c'est un quartier relativement privilégié. Hein. Je fais partie aussi de l'association du quartier, je suis la secrétaire de l'association du quartier, donc j'ai récolté des bocaux, des trousses de toilettes, je me suis servi de l'association et du fait que je pouvais contacter pas mal de gens. Mais ça ne résout pas le problème. C'est un quartier ici relativement tranquille. Personne n'a été isolé. Il n'y a pas de petits vieux qui n'ont pas eu à manger. Il y a eu de l'entraide de voisins, d'ailleurs beaucoup de voisins, parce qu'on a eu peur que les gens ne puissent pas faire leurs courses. Mais en fait, il y a eu très peu de demandes. Les gens sont tout à fait organisés entre voisins. C'est tout un ensemble politique de choix, de choix des grosses multinationales. Qui mettent au chômage, qui voilà, on pourra pas continuer comme ça. S'il y a des gens qui ne réalisent pas ce qui s'est passé, qui ne changent pas un peu d'objectif, ça serait très décevant parce que quand même, c'est des signes avant-coureurs de grosses crises à venir encore.
On se retrouve avec des pénuries alors que y a des solutions mais qui sont pas mises en avant. Suffisamment.
Là, c'est justement, c'est que les petites choses locales ont beaucoup fonctionné, ont beaucoup plus fonctionné. Seulement, les gens, paraît-il, tous les petits commerces locaux qui fonctionnent plutôt mieux, d'alimentation évidemment, parce que les autres n'avaient pas le droit, ils ont vu repartir tous les clients qu'ils avaient eus, repartir au supermarché, comme si de rien n'était.
Moi, je pense, parce que là, on parle de la politique d'avant le Covid. Et là, maintenant, il va y avoir le deuxième tour après le Covid. Et j'espère bien quand même que les choses ont changé, dans le sens où on a vu les gens qui étaient sur le terrain et puis qui, effectivement, faisaient un travail de solidarité ou dans les associations, un travail vraiment très concret autour des paniers ou autre. Donc ça, je pense que déjà, ça montrait à quel point, si on faisait un peu confiance, effectivement, dans la population, dans les capacités d'initiative, en fait, des gens, et dans leur coopération, ben, on arriverait à soulever énormément à résoudre des problèmes, ou en tout cas, trouver des solutions, quoi, parce qu'il y a une inventivité, il y a une imagination incroyable. Et puis, en plus, je crois que le deuxième élément, c'est que c'est vrai qu'on est dans une ville, quand même, qui reste populaire, même si on voit bien la dérive du quartier haut, puisque, effectivement, maintenant, des prix flambent, et puis donc, il y a un changement un petit peu de gens qui y habitent. Mais il y a quand même les gens qui s'en sont sortis. Je ne suis pas trop d'accord sur l'idée que le quartier haut soit que des gens privilégiés. Il y a des gens... Oui, tu n'as pas dit ça, c'est vrai. Qui sont plus à l'aise. Il y a une partie du quartier haut qui est comme ça. Mais quand on descend vers le centre-ville, on voit des gens qui vivent dans d'autres situations, voilà, qui ont beaucoup plus de problèmes. Et là, c'est la solidarité familiale ou la solidarité amicale aussi qui a fonctionné et qui a fait que les gens ont réussi à s'organiser. Mais c'est vrai que là, maintenant, on se dit, là, avec le Covid quand même, les gens, ils vont sortir de la politique politicienne, ils vont se dire, là, il faut agir. S'il y a une alternative, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut décider, quoi.
Oui, et c'est pour ça que je reviens sur les résultats du premier tour dans cette ville, avec une liste quand même qui est faite de 60% de citoyens et qui est quand même arrivée en deuxième position.
D'autant plus que c'était avant le Covid.
Alors, je vais passer la parole à une personne qui nous a rejoint.
Je venais juste apporter mon gâteau au chocolat.
Donc, vous l'avez déposé où ?
En bas. Oui, ben, il y a des grands sacs en bas et des glacières. Pour entreposer la nourriture, voilà. Donc aujourd'hui, je m'étais inscrite sur le Framadate pour amener un dessert, un gâteau. Et dimanche, ce sera pour un repas chaud.
Qu'est-ce que vous pensez des discussions qu'on vient d'avoir ?
Non, je trouve qu'il y a un beau mouvement de citoyenneté que l'on retrouve dans beaucoup d'associations. Enfin, je trouve que c'est assez dynamique et c'est un aspect qui m'a vraiment intéressée dans cette ville. Après, comme disait la camarade, c'est vraiment des personnes qui sont déjà convaincues et qui sont déjà dans cette mouvance-là. Après, j'ai un petit doute à savoir si on peut, comment dire, faire réfléchir des personnes qui ne seraient pas engagées dans cette démarche. Voilà, parce que je crois qu'il y a beaucoup aussi de matraquage et de fausses informations. Enfin bon, voilà. Et quand on est embarqué dans une politique depuis 18 ans, c'est peut-être difficile de changer son avis. Et je crois que tout changement peut faire peur aussi.
Il faut qu'il passe le relais. Mais
moi, ça va faire 20 ans que je suis assez. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui me donne envie d'être optimiste, c'est que il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de choses faites pour les touristes, les magasins, les appartements, etc. C'est vrai, mais à travers les associations, j'ai quand même vu qu'il y avait des gens, et qui plus est des gens jeunes, parce que dans les associations, on était beaucoup des retraités, hein, mais bon, c'est eux qui ont le plus de temps, ça se comprend. Et des gens jeunes qui sont arrivés avec des enfants, et j'en ai vu arriver là depuis 4-5 ans, et qui sont très investis, qui sont très déterminés, qui sont... Et tout ça, c'est de... c'est pas des gens qui sont d'ici à l'origine, mais ils ont envie de vivre d'une certaine manière. Ils viennent pas ici par hasard, ils ont envie de faire des choses. Et moi, je vois, bon, que ce soit à la COP, que ce soit partout où je suis allée, à l'association de la roue libre de Tau, etc., on voit qu'il y a quand même d'abord un renouvellement au niveau de l'âge, ce qui est très important, puisque c'est par le brassage que les choses elles avancent, et en plus qui sont vraiment, et qui sont très impliqués, et qui sont actifs. Et ces gens-là, il y a 4-5 ans, ils n'étaient pas là. Donc cette liste... Ils ont des compétences, ils ont plein de compétences, ils sont déterminés, ils ont envie de la transition. D'ailleurs, j'ai envoyé à Isabelle, il y a un pacte pour la transition qu'on peut signer, que j'ai reçu, que j'ai envoyé voilà, à différentes personnes. Et moi, je suis très... ça me fait du bien de voir vous qui êtes là, et puis tous les nouveaux, qui sont pas que des touristes, qui sont pas, qui n'ont pas envie que Sète devienne... voilà. Moi, je suis très optimiste.
Les gens qui arrivent à Sète, ils aiment Sète, ils ont envie de vivre à Sète, ils ont envie qu'il y ait des choses pour leurs enfants, ils ont envie qu'il y ait plus d'égalité, plus de... Voilà, et beaucoup moins de résidents, de standing, et pas des parkings en centre-ville, des parkings sur les bords. On a des canaux merveilleux qui pourraient servir à ne plus avoir de bus ou pratiquement plus. Voilà, mais ça c'est une politique qui est une politique de toute façon, effectivement, de droite, on peut le dire, de droite, en fait, disons, de capitalisme, on va dire plutôt, pour ne pas parler de clan politique, c'est du capitalisme et du libéralisme, et c'est tout.
Si on revient au sujet, donc tout le monde a déposé...
Tous les repas sont mis dans les glacières, les desserts, les fruits, les repas chauds sont mis dans les glacières. Et à 14h15, il y a Florence, jusqu'à présent, qui fait partie aussi du groupe et qui est notre petite coursière, qui passe chercher tous les repas, qui sont ensuite emportés à l'association des bons samaritains, qui recueille à ce moment-là tous les repas, parce qu'il y en a énormément, hein, pour 80 personnes. Et ensuite, il commence la maraude, qui dure souvent jusque vers 11h du soir.
15h38.